France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Faut-il craindre le retour de la guerre civile en Syrie ? Depuis plusieurs semaines, les affrontements se multiplient et le nombre de morts se compte par centaines entre les forces pro-Assad et les nouvelles autorités du pays. La guerre civile peut-elle succéder à la guerre civile ? C'est ce concept, vous l'aurez compris, celui de guerre civile que nous allons interroger aujourd'hui. Mobilisé à tout va dans le débat public français, indispensable surtout pour saisir les transformations géopolitiques à l'œuvre sur le long terme, la notion méritait un examen sociologique approfondie, un examen de terrain grâce à notre invité Gilles Doron-Soro. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous arpentez les théâtres de guerre et plus particulièrement l'Afghanistan et la Syrie depuis plusieurs années et vous faites paraître ces jours-ci un ouvrage intitulé « Le plus grand mot, sociologie des guerres civiles ». C'est aux éditions du CNRS. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir.
Si on va au bout de votre raisonnement, le pays explose ou c'est la guerre civile. Et c'est ça mon grand désaccord avec les deux extrêmes et ceux qui les suivent. Beaucoup de nos compatriotes, pourquoi ils vont vers des extrêmes? Parce qu'ils ont souvent une colère ou quelque chose auquel on ne répond pas. Il y a beaucoup de gens qui vont voter pour l'extrême droite parce qu'il y a une insécurité du quotidien, parce qu'il y a une immigration qu'ils considèrent comme n'étant pas réglée, et ils se disent « on ne les a pas essayés ». Ça fait 7 ans qu'ils sont là, on va essayer ailleurs. Cela, je veux leur dire « message reçu ». Moi, je respecte profondément les gens qui rejoignent ce vote et qui l'ont fait. Mais je pense que c'est pas la bonne réponse pour le pays parce qu'elle mène à la guerre civile. Et surtout parce que c'est aussi un programme d'appauvrissement parce que c'est plusieurs milliers d'euros d'impôts cachés chaque jour et une impossibilité de payer les retraites et de bien payer les salariés.
La voix du président de la République Emmanuel Macron qui participait le 21 juin dernier au podcast intitulé « Génération Do It Yourself ». Gilles Doron-Soro, deux fois l'expression de « guerre civile » a-t-elle été employée par le président de la République ? Qu'est-ce que vous pensez de l'usage qu'il fait de ce concept que vous travaillez depuis tant d'années ?
Alors, ce qui est intéressant dans l'intervention d'Emmanuel Macron, c'est deux choses. Premièrement, c'est qu'il reprend un thème qu'on trouve partout depuis quelques années, hein, des anciens généraux à la retraite, des écrivains comme Michel Houellebecq, des analystes, Gilles Kepel aussi, qui parle de guerre civile larvée. On pourrait multiplier les exemples. Donc, c'est devenu un lieu commun. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'on a une confusion intellectuelle massive entre d'un côté ce qui est une vraie guerre civile, hein, comme on a vu en Syrie, en Afghanistan, et de l'autre, des attentats, des mouvements de protestation comme les Gilets jaunes, tout un tas de dysfonctionnements sociaux, de la grande criminalité. Et la confusion entre les deux est grave politiquement pour une raison essentielle, c'est que c'est un problème d'allocation des ressources. Si vous pensez qu'on est dans une guerre civile en France, il faut faire intervenir l'armée. Or, c'est pas du tout une réponse adaptée quand vous avez du trafic de drogue, des ports la Méditerranée qui sont percutés par la grande criminalité, ou quand vous avez des gilets jaunes. Donc voilà, donc il y a un problème d'adéquation entre un fantasme de guerre civile et une réalité sociale qui est complètement différente.
Mais si je tire le fil de ce que vous dites, Gilles Doron-Soro, les personnes qui mobilisent ce concept dans le débat public français laissent souvent entendre que des communautés qui appartiennent à l'espace national vont s'opposer et s'opposer dans la violence sans que l'État puisse réguler justement cette violence entre eux. Est-ce que cela, c'est un lieu commun et surtout, est-ce que c'est une manière dévoyée d'approcher la guerre civile, la notion de guerre civile ?
Alors, d'une part, aujourd'hui, on n'a pas d'affrontement communautaire en France. On en est très, très loin. Hein. Quand un jeune musulman se fait massacrer dans une mosquée, dans les réactions, vous avez des institutions juives, chrétiennes, etc. On n'est pas du tout dans une atmosphère de guerre civile. Après, effectivement, il y a des situations. Prenons le Liban des années 70, où effectivement, c'était des affrontements qui étaient communautaires. Mais c'est jamais exactement communautaire, au sens où c'est toujours des partis politiques, des organisations qui mobilisent des communautés. On a vu ça en Yougoslavie également. Donc, vous voyez, on est d'un côté dans un phénomène qu'on peut effectivement analyser, qui est jamais un phénomène communautaire par le bas. Les guerres civiles ne commencent pas par le bas. Elles commencent toujours par des mécanismes politiques. Et c'est ça qui est central quand on fait de l'analyse. Quand on regarde les vraies guerres civile, c'est comme ça. Par exemple, la Turquie, qui est en guerre civile depuis les années 80, c'est le PKK qui a déclenché la guerre civile. C'est pas les Kurdes contre les Turcs. Hein. Vous voyez, c'est toujours des phénomènes politiques. Et c'est une des choses que je voulais rappeler dans mon livre.
Un dernier point quand même sur la France, et après on abordera les vrais cas de guerre civile. Selon un sondage IFOP paru hier, 4 Français sur 10 anticipent des crises d'une ampleur inédite, telles qu'une guerre civile, ils sont 42%, ou l'assaut des institutions républicaines à l'image de celui du Capitole. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là dans ce sentiment partagé par une part en tout cas de nos concitoyens, j'allais dire, une sorte de défiance dans la résilience des institutions? Et souvent on fait le raccourci entre cette résilience et la guerre civile.
Alors, on a d'abord un phénomène de long terme, enfin de relativement long terme maintenant, depuis une vingtaine d'années, une défiance croissante par rapport à toutes les institutions, que ce soit les institutions scientifiques, politiques, médiatiques. Et autres. Donc ça, c'est un phénomène de fond. Et puis, de l'autre côté, on a en fait un thème de la guerre civile qui est travaillé, qui est imposé un peu à la population, il faut bien le dire, et qui, en fait, amène à une restriction progressive des libertés publiques. Et voilà, la tension, elle est là, en fait. Hein. On ne va pas vers une guerre civile, mais on va vers, depuis quelques années, vers une limitation des, par exemple, de la possibilité de manifester, la possibilité d'avoir une vie privée, notamment sur le net, etc., etc. Et donc là, c'est là, l'enjeu, il est là. Hein. Il n'est pas dans la guerre civile.
Alors, je voudrais qu'on comprenne avec vous, Gilles de Ronceraux, ce qu'est véritablement une guerre civile, ce que votre dernier ouvrage intitulé Le plus grand des mots, sociologie des guerres civiles, documente d'une manière précise. Commençons par la Syrie. La Syrie qui laisse entendre, en tout cas, qu'une forme de guerre civile pourrait de nouveau exister. On entendra votre commentaire sur ce point.
Hassan, c'est un prénom d'emprunt, n'a eu le temps d'emporter que quelques affaires. Des vêtements, des médicaments, enfournés à la hâte dans un petit sac. Arrivé devant la frontière libanaise, il doit traverser une rivière. De l'autre côté, l'attendent des voisins, des amis qui ont fui sous les balles avant lui. Mais pour aller où, désormais, demande-t-il.
Je ne sais pas, je vais peut-être essayer d'aller au Canada, dans n'importe quelle région, tant que c'est loin d'ici. Dans cette situation, la Syrie n'est plus vivable pour nous. La Syrie, c'est fini.
De l'autre côté de la rivière, des dizaines de familles attendent le pantalon recouvert de terre. Tout avance, les ragards, toutes témoignent de la même histoire. Des pick-up, des hommes vêtus de noir, et puis le bruit de ces tirs, de ces cris et l'odeur de ces corps restés parfois plusieurs jours à même le sol. Dans le convoi, un homme, son fils entre les bras, répète « Mais qu'avons-nous fait pour mériter ça ?»
Il se venge de nous parce que Bachar al-Assad est alaouite, mais nous ne sommes pas Bachar al-Assad.
Depuis plusieurs jours, les actes de vengeance entre communautés en Syrie, notamment contre la communauté alaouite, se multiplient, faisant redouter. C'est ce que j'ai lu dans beaucoup de médias français, francophones, qui employaient l'expression de guerre civile. Est-ce qu'on est bien dans ce cas-là, Gilles de Ronceraux, dans un retour en Syrie de la guerre civile?
Alors un retour, pas tout à fait, parce que ça s'est jamais vraiment terminé. Hein. On pourrait parler d'une fin de la guerre civile s'il y avait réunification du territoire, et le pouvoir actuel ne contrôle pas l'ensemble du territoire. Hein. Les zones kurdes restent largement indépendantes, toute la côte alaouite n'est pas du tout sous contrôle, les régions druzes non plus, et au-delà de ça, même des villes sunnites, qui a priori sont plus proches du pouvoir actuel, ont une marge d'autonomie tout à fait significative. Donc non, la guerre civile ne s'est jamais arrêtée. Par contre, il y a eu une phase de la guerre civile qui est terminée, c'est le régime de Bachar al-Assad qui est tombé. Et là, on a des choses intéressantes dans ce qui se dit. Pourquoi ? Parce que d'abord, on a les effets de long terme du pouvoir de Bachar al-Assad, enfin et de son père avant, d'Hafez, qui ont manipulé, instrumentalisé la communauté alaouite. Ils l'ont instrumentalisé. Il ne faut pas oublier que les alaouites, notamment, ont connu des pertes extrêmement lourdes, hein, parce qu'ils sont beaucoup engagés dans l'armée, ou ils ont été engagés dans l'armée, et qu'ils étaient très présents dans les services de renseignement. C'est-à-dire que, concrètement, beaucoup de gens qui ont été torturés dans les prisons de Bachar ont été torturés par des alaouites. Donc, il y a effectivement, après des décennies d'instrumentalisation, une haine chez beaucoup de gens qui ne sont pas alaouites, qui étaient dans l'opposition, contre les alaouites. Hein. Et c'est assez compréhensible. Quand on pense à ce qui s'est passé en 1944 en France, évidemment, il y a des règlements de compte. Il y a cet aspect-là. Il y a un deuxième aspect maintenant qui est que les restes du régime, notamment sur la côte alaouite, ont tenté dernièrement, il y a un mois à peu près, une opération contre le régime. C'est-à-dire que c'était une véritable tentative de relancer la guerre civile, au sens de relancer à grande échelle, avec des affrontements généralisés. Cette tentative a échoué. Ça a créé, en réaction, de la part des soutiens du régime, mais aussi dans des règlements de compte de voisinage, des massacres contre des civils alaouites, probablement plusieurs milliers, même si ce n'est pas très clair. Et donc là, on est dans une situation dangereuse, parce qu'il y a des peurs sociales, il y a aussi beaucoup d'enlèvements d'alaouites, et donc la situation est extrêmement instable.
Vous mettez en exergue dans votre ouvrage les traits communs au processus de pacification qui concourt à terminer, à achever une guerre civile. Et parmi ceux-là, il y a les réparations, le retour des réfugiés, la justice transitionnelle et pénale internationale, les politiques mémorielles, les différents processus de médiation et de désarmement. Fin de citation. Toute cette liste-là, le nouveau pouvoir en Syrie tente de les mettre en œuvre pas à pas, à des rythmes différents certes, mais c'est une guerre civile qu'ils sont en train d'essayer d'achever.
Alors, le problème aujourd'hui du nouveau pouvoir, c'est qu'il ne contrôle pas le territoire. C'est-à-dire qu'on...
Ce que vous disiez, c'est le contrôle du territoire.
On peut parler de guerre civile quand vous avez plusieurs forces politiques qui ont découpé quelque part le territoire sur des frontières politiques. Aujourd'hui, en Syrie, on n'est pas dans la phase de réunification. Il faut voir que HTS, donc le groupe qui a pris le pouvoir en décembre, c'était 20 000 hommes. 20 000 hommes pour contrôler l'ensemble de la Syrie, à l'évidence, ça fonctionne pas. Plus des sanctions internationales très fortes, plus une pression israélienne, puisque Israël donc a conquis de nouveaux territoires, a fait partir une partie de la population. On est dans une logique d'annexion avec des bombardements sur toutes les installations militaires, ce qui fait que le pouvoir central a plus les moyens de gérer le territoire concrètement. Et donc là, effectivement, comment est-ce qu'on sort de là ? Alors, il y a une première voie qui est effectivement de mettre sur la table l'ensemble des crimes de Bachar el-Assad et de son père, depuis les années 70. Et ça, c'est un travail d'une génération. On découvre en permanence des charniers, des prisons souterraines.
Mettre sur la table, c'est-à-dire documenter, recenser.
Documenter, recenser, éventuellement, et même certainement, faire passer en jugement les gens qui sont responsables, même si les cadres du régime les plus importants sont aujourd'hui au Liban ou à Moscou. Mais en tout cas, il y a effectivement ce travail de mémoire à faire. Ça, c'est un premier travail. Le deuxième travail, c'est trouver des équilibres politiques entre notamment les forces kurdes, les groupes druzes, rassurer la population alaouite. Tout ça, ça suppose des moyens, ça suppose aussi une force armée nationale. Pour le moment, on n'en est pas là. Et donc, la question, c'est est-ce que de l'extérieur, notamment l'Union européenne ou d'autres, ou les pays du Golfe, peuvent financer l'État syrien, moyennant un certain nombre de garanties sur son fonctionnement, et aller vers la reconstitution d'un État ? Il n'y aura pas de sortie de guerre civile s'il n'y a pas reconstitution d'un État.
D'une manière plus théorique, comment avez-vous participé à renouveler la définition de guerre civile ? Comment est-ce que vous-même, d'ailleurs, définissez cette notion ?
Alors, la guerre civile, vous avez énormément de définitions. Une partie des définitions n'apporte rien fondamentalement parce que c'est des définitions chiffrées à base de seuils. Et donc, très vite, on se rend compte que ça n'a aucun...
C'est le seuil souvent des 1000 morts que l'on évoque.
Voilà, bon, et ça n'a aucun intérêt parce qu'effectivement, c'est 1000 morts en Chine ou 1000 morts au Liban, c'est la même chose. Donc voilà, il y a déjà toute une critique. Le travail, en fait, a commencé par une mise à plat de ça. Et ces définitions sont pas inintéressantes parce que c'est souvent à partir de ça que résonnent les administrations, notamment américaines. Donc c'est un vrai impact sur le réel. Ma définition est plutôt partie de l'idée que les frontières sont stables dans le monde actuel, moyennant quelques exceptions, deux puissances expansionnistes, essentiellement la Russie et Israël aujourd'hui, et que du fait que les frontières sont stables, quand vous avez un affrontement d'ordre sociaux, disons de groupes politiques qui contrôlent un territoire et une population, la logique, à terme, la logique, c'est la réunification. Et donc la guerre civile, c'est ce moment particulier où vous avez des sociétés avec des normes, du droit, une organisation sociale différente, des sociétés qui s'affrontent sur le même territoire national avec, pour destin très probable, une réunification.
C'est ce que l'on découvre en partie en vous lisant, Gilles de Ronsoro. Dans le fond, une guerre civile, ce n'est pas uniquement, et ce n'est presque pas d'ailleurs, que du chaos politique. C'est aussi un moment fécond sur le plan institutionnel, sur le plan de l'innovation politique. C'est un moment où vont se créer de nouvelles manières d'être ensemble, d'interagir entre communautés.
Alors c'est fécond, mais pas forcément positif, hein, les deux choses sont différentes. Mais ce qu'on voit, c'est d'abord, à part des moments très très particuliers, la guerre civile, c'est la création d'institutions concurrentes. Par exemple, au lieu d'avoir un système judiciaire, vous en avez deux. Au lieu d'avoir une armée, vous en avez deux, etc., etc. Donc vous avez une complexification du système institutionnel. Le meilleur exemple de ça, c'est quand vous avez une armée régulière qui met en place des systèmes de milices, qui deviennent souvent incontrôlables. Regardez la Turquie, regardez l'Afghanistan, le régime met en place des milices. Complexification du système institutionnel. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous avez des normes sociales qui diffèrent, et parfois radicalement. Pensez aux talibans, par exemple, un droit spécifique pour les femmes, ou un droit ou une absence de droit, etc., versus des groupes qui avaient des visions plus nuancées ou plus équilibrées des rapports de genre. Vous avez donc une explosion des projets sociaux possibles. Et ça, évidemment, quand on est dans une phase de réunification, c'est très compliqué. Comment, par exemple, en Syrie, vous pouvez mettre d'accord des gens issus d'un djihadisme transnational avec des Kurdes qui sont lointains héritiers d'un projet marxiste, avec une révolution libérale qui a été largement laminée, et dernièrement avec un pouvoir qui est un pouvoir de type criminel mafieux. Comment tous ces gens-là peuvent consolider leur pouvoir et un jour éventuellement se réunifier. En règle générale, les guerres civiles, ça se termine par un vainqueur et un vaincu.
Vous décrivez aussi qu'une guerre civile produit souvent, généralement même, une nouvelle économie politique. De quoi s'agit-il en l'occurrence ?
Alors, il y a deux aspects. Premièrement, les frontières internes entre les groupes sont souvent plus fortes que les frontières internationales. Grosso modo, vous avez beaucoup de contrebande, vous avez une économie qui repose, parce qu'il y a une destruction évidemment du capital économique, mais vous avez une économie qui repose beaucoup sur la taxation des transactions, sur la redirection des flux. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, ce qu'on a vu notamment en Irak, c'est que un groupe politique va favoriser ses soutiens, c'est-à-dire que vous avez une redirection des avantages donnés, par exemple, aux Kurdes, si vous êtes à Kirkouk en Irak, pendant le temps où les Kurdes contrôlaient la ville, il y a une redirection des flux commerciaux.
Je voudrais qu'on s'intéresse à une guerre civile absolument dramatique qui est à court présentement. Je veux parler du Soudan. Voici un reportage qui était effectué le 28 avril dernier par nos confrères d'RFI.
Quand on entend les bombardements, on se couche sous les lits pour se protéger. C'est terrorisant, c'est impossible de dormir. Jour et nuit, les FSR bombardent, puis l'armée bombarde. On ne peut pas fermer l'œil.
Les FSR venaient chez nous n'importe quand et ils criaient « Donnez-nous vos enfants, vos filles, tout ce que vous avez ». Et ils prenaient tout de force. Ils n'ont pas pris mes filles, mais mes voisins n'ont pas eu cette chance.
Les FSR ont fermé les marchés. Il est très dur de trouver de la nourriture et il faut marcher des kilomètres pour l'eau. Nous sommes trois familles ici et nous ne pouvons pas rester. Les hommes sont partis chercher de l'eau et de la nourriture. On décidera ensuite où aller.
Depuis le 15 avril 2023, 150 000 morts dans cette guerre civile, 13 millions de déplacés, la moitié de la population, 44 millions, est au bord de la famine. Qu'est-ce que cette guerre civile nous enseigne, là encore, sur le concept de guerre civile que vous approchez, Gilles de Ronsoro ?
Alors, il y a une première remarque qu'on peut faire et qui s'applique à je crois, un certain nombre de guerres civiles, c'est le moment où des groupes de contre-insurrection, des milices organisées par le pouvoir central, c'est le cas des SFR au début, s'autonomisent au point de recréer une guerre civile dans la guerre civile, enfin d'entamer une nouvelle phase de guerre civile. Puisqu'en fait, c'est ça l'enjeu de cette guerre civile, c'est pas un enjeu politique à strictement parler, c'est simplement un enjeu de savoir qui va contrôler le pouvoir, ou le gouvernement légal ou les SFR, qui sont d'anciennes milices.
C'est une lutte pour le pouvoir.
C'est pur. Dans ce cas-là, il n'y a pas de projet idéologique particulier. Et il y a un deuxième aspect qui est évident dans ce cas-là, et puis qui remonte à une histoire plus longue du Soudan, c'est que certaines populations gens sont stigmatisés, massacrés. Alors là, c'est le Darfour hein, qui toujours revient dans cette situation de victimisation. Et là, on a des cas... le Soudan n'est pas le seul, hein, mais des cas où on peut aller vers le nettoyage ethnique, des massacres de masse, voire à l'extrême des génocides.
Est-ce qu'on peut dire, dans ce cadre-là, et bien au-delà par ailleurs, du rôle de l'aide internationale que vous avez également abordé, est-ce qu'il y a une constante en matière d'aide internationale s'agissant des guerres civiles ?
Alors, en un sens, la constante, sauf exception, c'est qu'il y a de l'aide internationale. C'est-à-dire que dans les guerres civiles contemporaines, on croise toujours un peu les mêmes acteurs, hein, les journalistes de guerre, un ou deux sociologues égarés, et surtout des organisations humanitaires. Voilà, puis des espions, des diplomates, etc. Donc ça fait partie des acteurs classiques. Hein. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que ces organisations internationales ont des projets qui sont des projets sociaux, politiques, hein, notamment sur la façon de traiter la population, les enfants, les femmes, les adultes, etc., qui sont en fait des modes de gouvernance alternatifs. Et parfois qui rentrent en contradiction avec ce que les groupes politiques aimeraient faire. Par exemple, les relations entre les talibans et les ONG ont toujours été désastreuses, hein, depuis le début, parce qu'il y a un conflit de projets politiques. Donc, en ce sens, les ONG ne sont pas tout à fait neutres. C'est un projet plutôt humaniste et fondamentalement plutôt axé sur le respect des droits de l'homme, alors que les groupes politiques, évidemment, ne le sont pas forcément. Donc ça, c'est la deuxième chose que je vois. La troisième, c'est que les organisations de type ONG, l'aide au développement, etc., ont un rôle extrêmement ambigu parce que très souvent, en fait, ça fournit des ressources aux groupes armés et aux gouvernements et donc ça peut alimenter le conflit. On a vu en Afghanistan notamment, mais dans d'autres cas également. Et là, évidemment, le rôle est plus ambigu. C'est-à-dire que est-ce que ça ne fait pas partie de la logique de guerre ?
Je change à dessein hein, de théâtre et de région de guerre. En quoi le concept de guerre civile n'est justement pas pertinent, vous nous direz si j'ai raison ou pas, mais pas pertinent pour comprendre ce qui se passe à Gaza, pour comprendre ce qui se passe entre Israël et le Hamas.
Alors, moi je suis parti avec une définition assez stricte de la guerre civile où la question de la stabilité des frontières est centrale. Et évidemment, pour Israël, il n'y a pas de frontières, enfin il n'y a pas de frontières très claires, puisque... Là, Israël vient de dire qu'ils vont rester indéfiniment sur le territoire libanais qu'ils contrôlent. Ils ont poussé leur contrôle et leur annexion probable sur la Syrie. Donc, le statut de Gaza et de la Cisjordanie n'est pas non plus très clair. Probablement une annexion à terme. Donc, ça ne correspond pas à mon schéma théorique. Hein. J'ai voulu être assez strict là-dessus. Bon, ça, c'est un premier élément. Il y a un deuxième élément, c'est que c'est une guerre qui a un aspect colonial incontestable, hein, c'est-à-dire que c'est une guerre pour le territoire, pour le contrôle du territoire, des populations, avec un projet israélien qui est un projet de plus en plus d'élimination des Palestiniens, de les faire partir, de la déportation, etc. Ça ne correspond pas à un modèle classique de guerre civile. Et le troisième élément, la troisième différence, c'est que y a pas d'ONG. Ah, pour le coup, il y a très très peu d'ONG. Y a pas
le territoire leur est inaccessible.
Ah, là, très largement, oui. Parce que bon, il y a une fermeture assez générale de la part des autorités israéliennes. Deux, parce que beaucoup de journalistes se sont fait tuer, comme vous le savez. Mais aussi, des ONG ont été ciblées. Là, on a encore un cas avec une, je crois, 14 ou 15 humanitaires qui ont été exécutés dans des circonstances assez atroces. Bon, voilà. Donc, il y a une fermeture. Donc, tout ça correspond pas à un modèle de guerre civile très classique.
Mais il est troublant tout de même qu'il faille la présence sur le territoire d'organisations non gouvernementales pour catégoriser un conflit comme guerre civile.
Alors, ce n'est pas un élément essentiel. Hein. Bon, moi, je ne fais pas de la métaphysique. Donc, ma définition, elle est à partir d'un certain nombre d'indices. Quand vous avez un contrôle territorial, quand vous avez un système juridique alternatif, quand vous avez la présence des acteurs classiques des guerres civiles, bon, on est quelque chose qui est proche d'une guerre civile. Le conflit israélo-palestinien est quand même assez différent dans sa logique.
Qu'est-ce que c'est que de faire de la recherche en guerre civile ? Est-ce que c'est plus ou moins simple que dans une guerre dite traditionnelle ou classique ? Qu'est-ce que ça fait d'être parmi ces deux sociologues égarés que vous décriviez plus tôt ?
Alors, Bon, il y a un certain nombre d'obstacles. Hein. Un obstacle qui devient extrêmement important, c'est l'obstacle bureaucratique dans nos sociétés. Hein, puisque pour aller faire durer dans une guerre civile, il faut avoir des autorisations de son administration, donc d'une université, etc. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que c'est long. Ça prend beaucoup de temps. Et c'est vrai que c'est, en tout cas à court terme, moins productif que de faire de la corrélation avec des données sur Internet. Hein. Et c'est une large partie de la production sur les guerres civiles, notamment la production américaine, qui fonctionne comme ça. Donc c'est un travail un peu ingrat. Mais en même temps, je pense que c'est un travail qui donne des choses importantes, y compris d'un point de vue politique. Si vous voulez faire du conseil au gouvernement, dire des choses publiquement. Hein. Je fais ce que je peux prendre un exemple pour...
Je t'en prie en quelques mots parce qu'on arrive déjà au...
Ouais, très rapidement, ce qu'ont fait les Américains en Afghanistan était, comme stratégie, c'était profondément suicidaire. Il me semble que des études de terrain, enfin des choses plus concrètes, plus ancrées, montraient ça clairement dès 2003-2004. C'est-à-dire que 20 ans quasiment avant la sortie des Américains, on savait que leur stratégie était destinée à échouer. Voilà, donc ça sert à quelque chose.
De l'intérêt donc de faire du terrain, et je recommande donc la lecture de votre ouvrage, Le plus grand des mots, Sociologie des guerres civiles, c'est aux éditions du CNRS. Merci beaucoup Gilles de Ronsereau.
Je vous remercie.